Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième partie de ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que Laurent est au standard et il sera ravi de prendre vos questions et vos remarques que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez donc le faire par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc maintenant en direct toujours cette deuxième partie d'émission. Depuis l'intervention américaine en Irak et les révoltes du printemps arabe, le Proche-Orient semble être entré dans un cycle de violence et de guerre sans fin. Un paroxysme dans l'horreur semblait avoir été atteint avec la guerre à Gaza et ses plus de 70 000 morts. Il y a eu depuis l'effondrement soudain de Bachar el-Assad en Syrie suite à l'offensive surprise d'Ayat Tahrir al-Cham, c'est HTC, à partir de la poche d'Idlib et son gouvernement de salut syrien dirigé par le futur président provisoire de la Syrie al-Shara. Et puis maintenant, il y a la guerre en Iran, après la répression féroce des manifestations par le gouvernement dictatorial des Mollahs. Nous avions reçu, il y a à peu près 2 ans, Fabrice Ballanche, qui est un spécialiste très reconnu de la Syrie et du Proche-Orient, alors que à cette époque, Assad semblait, avec l'aide de la Russie et de l'Iran d'ailleurs, hein, et de son allié libanais, le Hezbollah, avoir triomphé de ses ennemis. Nous avons le plaisir de le recevoir à nouveau ce soir pour évoquer justement tous ces bouleversements et ce que va provoquer sans doute la guerre en Iran, afin de comprendre, de mieux comprendre ces événements et notamment essayer de comprendre les raisons de la chute si soudaine d'Assad en Syrie. Il s'agit aussi d'analyser les conséquences de ces événements et essayer, autant que faire se peut, de mieux comprendre, discerner l'avenir. Nous nous attacherons donc avec Fabrice Ballanche aux raisons de l'effondrement des Alaouites, du gouvernement Alaouite en Syrie, de discerner aussi la personnalité et les intentions du nouveau président al-Shaara, notamment sur le plan de liberté et de la liberté des minorités. Nous essaierons aussi de mieux comprendre la situation sociale, sécuritaire, politique et économique dans ce pays mosaïque qui est maintenant dirigé par d'anciens extrémistes sunnites. Et nous interrogeons naturellement à cet égard Fabrice Ballanche sur ces anciens extrémistes sunnites. Sont-ils tout simplement encore extrémistes? Sont-ils encore des musulmans radicaux à la tête maintenant de cette Syrie? Alors Fabrice Ballanche rentre d'un voyage justement en Syrie qu'il a effectué en septembre 2025, pays où il se rend d'ailleurs régulièrement, ce qui donne beaucoup de force et de crédibilité à ses propos et à ses analyses. Fabrice Ballanche, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Radio Courtoisie. Nous vous recevons avec un très grand plaisir. Vous êtes vraiment un très grand connaisseur de cette zone où se déchaîne à nouveau, malheureusement, l'actualité. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes géographe, un géographe d'ailleurs arabisant, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient, particulièrement de la Syrie et de Liban. Vous êtes docteur en géographie, vous êtes aussi maître de conférences en géographie à l'Université de Lyon 2, cette université aussi qui fait l'actualité. C'est malheureusement d'ailleurs, ces derniers mois. Vous avez été, je le précise, parce que ce sont des responsabilités originales et particulièrement intéressante. Vous avez été chercheur dans un groupe de réflexion à Washington, aux États-Unis, à la Hoover Institution. C'est un groupe de réflexion qui est affilié à l'université de Stanford. Et puis, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur cette spécialité, notamment de la Syrie donc, et du Proche-Orient. C'est un ouvrage pour lequel nous avions donc eu le plaisir de vous recevoir, « Les leçons de la crise syrienne », que vous avez publié chez Odile Jacob en 2024, ouvrage qui est préfacé par Gilles Kepel, et pour lequel vous avez reçu le prix du livre de géopolitique de la part de l'ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlange. Donc ce sont deux excellents parrainages que vous avez reçus à l'occasion, en effet, de la publication de ce livre, Fabrice Ballange, d'une part Gilles Kepel et Jean-Louis Bourlange, qui ni l'un ni l'autre ne sont considérés comme de deux gens heureux, dangereux extrémistes. Et ça ne vous a pas empêché, malgré ces parrainages tout à fait prestigieux, d'être victime d'une action violente. En avril 2025, votre cours a été interrompu par des militants d'extrême gauche. Qui était-il exactement, dans une de vos interventions, dans un de vos cours, en effet, à l'université de Lyon 2, au cri de sionistes, racistes, islamophobes, etc. Alors Fabrice Ballange, si vous le voulez bien, je voulais vous interroger rapidement sur votre situation à Lyon 2, suite à cette manifestation de militants, manifestation, vous n'avez pas été menacé physiquement, je crois que vous avez aussi... certains de vos élèves ont fait en sorte que la situation ne dégénère pas sur ce plan. Je voulais savoir où en était effectivement votre situation à l'université de Lyon 2, et notamment votre sécurité. Si vous continuiez à enseigner, comment ça se passait pour vous ?
Oui, moi je continue à faire mes cours normalement. Enfin, j'ai juste deux gardiens devant la porte pour protéger mes cours, pour éviter une nouvelle interruption, l'irruption d'un nouveau commando islamo-gauchiste qui pourrait en vouloir en découdre. Alors c'est l'université qui m'a donné cette protection. C'est moins pour me protéger que pour protéger sa réputation qui est malheureusement... pas mal écorné par ce qui s'est produit en avril dernier, mais après on a tiré un peu la ficelle. On s'est aperçu qu'il y avait le vice-président de l'université qui faisait sur Facebook l'éloge d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Ensuite, à l'automne, il y a un autre professeur de l'université Lyon 2 qui a été sous le feu des projecteurs parce qu'il s'amusait à poster des textes antisémites, des caricatures antisémites public, enfin c'était assez glauque. Et puis, dernièrement, vous avez eu la mort de Quentin, ce jeune étudiant de Lyon 2 qui a été tabassé à mort par des groupes gauchistes à proximité de Lyon 2, de l'Institut d'études politiques, parce que il protégeait donc le collectif Némésis. Qui n'acceptait pas de voir pour la énième fois quelqu'un de la France insoumise venir faire une conférence à l'université. En l'occurrence, c'était Rima Hassan qui venait déverser sa haine antisémite et anti-française à l'Institut d'études politiques de Lyon, où elle a été acclamée quand elle est arrivée. Enfin voilà, donc c'est dans cette ambiance qu'on baigne à Lyon. Bon, après, effectivement, on n'est pas tous les jours, si vous voulez, stigmatisés, attaqués. Bon, quand j'arrive souvent à l'université, je vois des affiches « Ballange nazi »,« Ballange extrême droite »,« Ballange dégage ». Enfin, ce n'est pas non plus un climat très, très serein. Mais c'est malheureusement le climat dans lequel se trouvent beaucoup d'universités de sciences humaines, de sciences politiques en France. Parce que, en fait, mes agresseurs du 1er mai, du 1er avril, ils n'ont jamais été identifiés. C'est-à-dire que l'université leur avait donné une salle où ils pouvaient organiser des activités militantes, prier, manger, recevoir le président de l'université, la vice-présidente, discuter avec eux, etc., à visage découvert. Mais bizarrement, personne ne les connaît. C'est pas qui c'est. Voilà, donc je vous le dis, hein, si vous voulez avoir une salle, vous allez à Lyon 2, on ne vous demandera même pas votre carte d'identité, rien du tout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc comment voulez-vous ensuite, s'il n'y a pas de sanctions, si vous avez des complicités au sein de l'administration de l'université qui vous protège, bah, comment voulez-vous qu'ensuite vous n'alliez pas jusqu'à assassiner un jeune militant qui ne soit pas de votre bord politique? Bon, là, ces assassins ont été, enfin, ces assassins, les gens qui ont pris part à son assassinat sont écroués. Qu'est-ce qu'il en sortira? Est-ce que la justice arrivera à déterminer qui a porté des coups mortels? Quelles peines auront-ils? Pour l'interrogation, mon affaire, enfin, je veux dire, il y a eu quand même plusieurs questions qui ont été posées au Parlement, au ministre de l'Enseignement supérieur, par des députés, par des sénateurs. Il y a eu toute une émotion par rapport à ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, bah finalement, mes agresseurs sont en totale impunité, parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce qu'officiellement, on ne les connaît pas. Donc voilà un petit peu dans quelle ambiance on est. Donc ça peut ressurgir, et l'assassinat de Quentin ne m'a pas surpris. Il n'y a même pas eu d'hommage à Lyon 2, pas de minute de silence. Juste un petit mot de la présidence qui fait présenter ses condoléances à la famille, qui déplorait évidemment cet assassinat, mais qui dénonçait la récupération politique que certains pouvaient faire de cette affaire, etc. Mais c'est grotesque. Il y a un étudiant qui a été tué, on présente ses condoléances, point. On ne va pas faire de la politique en justement dénonçant une quelconque récupération politique. Enfin, ces gens-là n'ont absolument rien compris. Ils n'ont aucune honte. Enfin, c'est incroyable. Voilà, après, bon, malheureusement, ces universités sont devenues des citadelles d'extrême gauche, inexpugnables, du fait du mode de gouvernance. Ils ont pris le pouvoir, et puis bah, vous avez un ministère qui est absolument incapable, qui n'a aucune volonté pour remettre les choses en ordre. Alors, ils ont remis les choses en ordre à Sciences Po Paris, parce que ça, c'est la formation des élites, évidemment, et puis ça fait beaucoup de publicité. Mais en ce qui concerne ces universités de sciences sociales, de sciences politiques en province ou en périphérie parisienne, eh bien, on les abandonne à l'extrême gauche. Sans se rendre compte, sans comprendre que c'est la formation des professeurs des écoles, c'est la formation des professeurs du secondaire, c'est la formation des assistantes sociales, des agents de la territoriale, qui passent par ces universités et qui sont donc déformés par l'idéologie d'extrême gauche. Et après, bah, faut pas s'étonner si la France insoumise a un socle énorme dans l'enseignement et parmi les jeunes générations.
Ces militants qui sont intervenus dans votre cours, qui vous ont obligé à quitter votre cours, il y a des vidéos qui montrent comment cela s'est passé, donc on est surpris qu'il n'ait pas été identifié. Ces militants, ce sont des étudiants de Lyon 2?
On ne sait pas, on
On ne
sait
sait même
pas.
pas, on n'a pas cherché en
Non,
fait, hein.
on n'a
Oui.
pas vraiment cherché à le savoir. Enfin, moi, en tout cas, je ne le sais pas. Il y avait sans doute des étudiants, il y avait des autres, toute cette mouvance Antifa qui traîne à Lyon 2, puisqu'ils ont évidemment porte ouverte. On ne leur demande pas leur papier, leur identité. Donc voilà, c'est toute cette faune qui traîne sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, qui vit du RSA ou de l'associatif financé par la métropole ou par la ville de Lyon. Enfin, on ne sait pas.
Comment réagissent vos étudiants lorsqu'ils, de manière personnelle, je veux dire, hein, ils ne vont pas s'exprimer publiquement, ce serait sans doute trop risqué, mais comment réagit la majorité silencieuse? Et vous,
Ah, mais il y
parle-t-il,
en a.
s'exprime-t-il?
Oui, alors il y en a qui viennent me voir pour me dire que bon bah voilà, ils souffrent en silence, mais ils n'ont pas le choix, puisqu'ils n'ont pas forcément choisi de venir à Lyon 2 avec Parcoursup. Vous allez là où l'algorithme vous envoie, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers pour détourner le système et partir à l'étranger, à Genève par exemple, ou faire une école privée. Donc, ils souffrent en silence, puis ils n'osent pas trop affirmer des opinions contraires à la doxa, de peur d'être saqués par les profs, de peur de ne pas être pris ensuite en master. Enfin, voilà. Il y a quand même un climat de peur hein, qui règne chez beaucoup d'étudiants. Voilà, moi je me souviens, quand je faisais des cours au CAPES à Grègue pour la préparation au concours, j'ai des étudiants qui venaient me voir à la fin en me disant: Ah, monsieur, ça fait du bien, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous font du bien vos cours. Ça fait 3 ans qu'on souffre, ça fait 3 ans qu'on nous balance de la propagande, des cours qui ne sont pas faits, qui sont mal faits, mal préparés, et puis en plus, des discours politiques. Ça fait du bien de vous entendre, quoi. Enfin, donc ça fait chaud au cœur quand même.
Mais comment, double question, comment l'extrême gauche a-t-elle pris le contrôle des universités, plus particulièrement de Lyon 2? Et sont-ils finalement représentatifs?
Alors, ce n'est pas toutes les universités. Ce sont les universités qui sont spécialisées en sciences humaines et sociales et
Oui.
en sciences politiques. Parce que quand vous avez, par exemple, des universités comme Besançon, une petite ville universitaire, où vous avez une faculté de sciences humaines et sociales, une faculté de droit, une faculté de médecine, une faculté de sciences, les sciences dures et le droit arrivent, si vous voulez, à contrebalancer le poids des sciences humaines et sociales et des sciences politiques. Mais quand vous êtes dans une université uniquement de sciences humaines et sociales et sciences politiques, ou avec un petit peu de droit, eh bien, sociaux, psycho, Sciences Po, tout ça, vous avez des gros bataillons de gauchistes, et par conséquent, dans les élections universitaires, hein, puisque je rappelle que le président de l'université est élu par un conseil d'administration, qui lui-même est élu à moitié par les enseignants-chercheurs, 20% par les étudiants, 20% par le personnel administratif, et puis 10% de personnalités extérieures. Bon, les étudiants, bah, c'est souvent c'est l'UNEF, c'est Sud, Solidarité, donc tous les syndicats d'extrême gauche. Personnel administratif est un peu plus modéré, mais la CGT, Sud sont aussi très importants. Et puis donc, chez les profs, bah, vous avez chez les enseignants-chercheurs, dans les facultés de sciences humaines et sociales, une domination d'extrême gauche. Donc à Lyon 2, par exemple, ils ont pris le pouvoir il y a 10 ans, et puis ensuite, eh bien, vous recrutez des copains. Donc vous renforcez votre corps électoral. Si vous voulez, c'est comme si un maire avait le droit de choisir les habitants qui peuvent habiter dans sa commune. C'est en gros les gens qui votent pour lui. Eh bien, c'est ce qui se produit. On fait des recrutements politiques. Alors on l'annonce pas comme ça, mais quand il y a une commission de recrutement, voilà, le recrutement est biaisé. Et donc, notre université, par exemple, elle s'enfonce elle est en faillite, hein, le niveau se dégrade. Donc, logiquement, l'équipe au pouvoir aurait dû être démise lors des élections. Eh bien, non, non, elle se renforce. Elle renforce ses scores, élection après élection, parce que le corps électoral, si vous voulez, lui est de plus en plus favorable grâce, pour les uns, à des recrutements biaisés, pour les autres, comme le financement des diplômes, le financement des recherches, les primes, les promotions internes dépendent finalement de l'équipe présidentielle. Bah, si vous êtes dans l'opposition, vous serez marginalisé, vous êtes maître de conférence, vous ne passerez jamais prof, hein, ce qui est mon cas par exemple. Donc ça veut dire un retard de salaire, etc. Donc bah, vous avez beaucoup de gens, vous savez, les gens sont pas très courageux, hein, donc qui du coup marchent avec le courant dominant.
Fabrice Blanche, votre position doit être très difficile. À Lyon 2, vous faites preuve d'un grand courage, vous dites ce que vous pensez, vous arrivez quand même à exercer votre métier, ça doit être très difficile pour vous à vivre.
Ben, si vous voulez, j'ai vécu 6 ans en Syrie, j'ai vécu beaucoup au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, j'ai quand même vécu sous une dictature. Donc, une fois en France, pays des droits de l'homme, une république, un pays libre, je ne vais quand même pas me censurer, je ne vais quand même pas baisser la tête comme si j'étais dans la Syrie de Bachar el-Assad ou la Syrie d'Ahmed el-Shaa. Il ne faut pas exagérer. Parce que on n'est quand même pas là, mais vous avez tout de même dans ces universités, si vous voulez faire carrière, ben voilà, il faut suivre le courant dominant. Alors évidemment, c'est difficile parce que vous vous retrouvez exclu. Vous n'êtes pas invité dans des colloques, dans des conférences, des choses comme ça, parce que oui, non, mais celui-là, il sent le soufre. Oui, non, mais ses théories sont contestées. Enfin, c'est pas de la recherche sur ce qu'il fait, etc. Donc on vous marginalise. Mais vous savez, c'est pas très grave. Moi, j'ai mes réseaux à l'étranger. Je travaille beaucoup avec les États-Unis, comme vous l'avez dit. Je travaille beaucoup avec des institutions au Moyen-Orient. Enfin, j'étais en Arabie Saoudite, au Bahreïn, il y a 15 jours, invité par les conseillers économiques français pour parler justement du remodelage du Moyen-Orient et de la guerre qui allait arriver. J'ai pas de souci, si vous voulez, de ce côté-là. Je fais ma carrière tranquillement. Je publie. J'ai jamais été autant invité à l'étranger que c'est depuis 2 ans. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas faire profiter de ces réseaux, de ce savoir, les étudiants comme je le voudrais, parce que j'ai pas accès justement au fonctionnement réel de l'université. Je peux pas monter un master de géopolitique. Je peux pas lancer un programme de recherche qui serait de la recherche, comment dire, pratique, avec une utilité sociale, si vous voulez. On donnera plutôt l'argent à ceux qui travaillent sur l'intersectionnalité genrée dans les associations de la banlieue lyonnaise, plutôt que de me donner de l'argent pour essayer de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon. C'est dommage pour l'université française, c'est dommage pour la France. Enfin, c'était pour ça d'ailleurs qu'en 2015, je suis parti aux États-Unis parce que j'avais déjà eu quelques déboires à Lyon 2. Et franchement, si j'avais su, j'y serais resté. Mais ça, si vous voulez, beaucoup de chercheurs dans mon cas qui partent, surtout les jeunes. Hein. Bon, maintenant, moi j'ai 56 ans, donc c'est difficile de refaire sa vie à l'étranger. Mais vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui préfèrent partir directement aux États-Unis, en Angleterre. Ou dans le privé, parce que de toute façon, ils ne sont pas recrutés à l'université, parce qu'ils ne sont pas dans la ligne du parti, et puis ils ne croient plus en l'université publique, hein. Elle est en train de toute façon de scier la branche sur laquelle elle est assise.
Fabrice Ballon, je suis... Oui.
Vous avez aujourd'hui un tiers des étudiants qui sont dans le privé supérieur, et dans tous les domaines, hein. Pas seulement les écoles de commerce, hein, en histoire géo, en sociaux, en géographie,
Oui.
tout.
Fabrice Ballanche, nous avons le plaisir de vous recevoir aussi. Bon, bien sûr, c'était prévu ainsi de parler de la Syrie d'Al-Shaarah, de parler effectivement de son accession au pouvoir, cette grande surprise de la chute si rapide de Bachar el-Assad, et puis la situation présente. Il y a un bouleversement, naturellement, c'est la guerre en Iran. Et d'après vous, cela aura-t-il des conséquences? Et puis après, nous reviendrons au sujet propre de la Syrie d'Al-Shaarah. Est-ce que la guerre actuellement menée par les Américains et Israël en Iran peut avoir des conséquences sur la Syrie?
Alors, la première conséquence de cette guerre pour la Syrie, c'est que la Syrie, qui s'attendait à recevoir beaucoup d'argent des pays du Golfe pour sa reconstruction, ben, je ne pense pas qu'elle reçoive de l'argent parce que les pays du Golfe vont avoir leur propre reconstruction à financer. Hein, vous avez vu que les Iraniens visent les stations de dessalement d'eau de mer à Bahreïn, aux Émirats. Ils vont, à mon avis, frapper aussi des centrales électriques, des terminaux pétroliers. Donc les pays du Golfe risquent de devoir dépenser beaucoup d'argent pour, une fois cette guerre terminée, pour leur propre reconstruction et également pour leur sécurité. Je pense qu'ils vont acquérir des systèmes de défense antimissiles performants. Je pense aussi que les États-Unis vont leur présenter la facture comme ils l'ont fait en 1991, lorsqu'il y avait eu l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et que les États-Unis avaient déplacé 200 000 hommes dans la région, hein. Ils ont siphonné les réserves de devises des pays du Golfe, ce qui leur a permis d'avoir une croissance économique exceptionnelle pendant 10 ans. Donc il y aura moins d'argent disponible pour la Syrie. Ensuite, vous avez vu que donc le Hezbollah, répondant à l'ordre de l'Iran, a frappé Israël lundi. Donc évidemment, Israël l'a répliqué et a décidé d'en finir avec le Hezbollah. Et là, on a pas mal de dégâts au Liban. Et vous avez aussi les forces d'Hachala qui sont aujourd'hui massées à la frontière avec le Liban. Et ça, c'est assez inquiétant parce que L'affaiblissement du Hezbollah risque d'encourager ses ennemis, notamment les islamistes sunnites, à vouloir prendre leur revanche par rapport au Hezbollah, par rapport aux chiites. Et ça peut être le prétexte pour Ahmad al-Sharaa d'envoyer ses troupes au Liban pour désarmer le Hezbollah. Ce que demande Israël, ce que demandent les États-Unis, ce qui permettra à Sharaa d'être encore mieux vu par les États-Unis. Sans doute, les Israéliens en ce moment-là seront obligés d'abandonner la protection qu'ils ont donnée aux Druzes depuis le mois de mai 2025, ce qui lui permettra de refaire l'unité du territoire syrien en échange de ce service. Mais ça sera pour Sharaa aussi le prétexte pour mettre la main sur le Liban, tout comme Hafez al-Assad avait pris le prétexte de la guerre civile au Liban à partir de 1975, pour intervenir au Liban au prétexte de protéger les chrétiens des Palestiniens, et puis ça a été le début de l'occupation syrienne au Liban. Donc on a comme ça des conséquences, si vous voulez, de cette action militaire israélo-américaine contre l'Iran, qui touche également forcément le Levant et la Syrie.
On peut imaginer, d'une manière réaliste, une intervention militaire des troupes de Bachar. Il a déjà du mal à tenir son pays,
Ah, je vous entends plus.
visiblement. Vous m'entendez là? Nous avons un petit problème.
Allô?
Vous ne m'entendez pas?
Allô?
Est-ce que vous m'entendez, Fabrice Ballanche? Non? Oui, il nous faut une petite pause musicale, le temps de régler ce petit problème technique.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après ce message de la radio, cette pause musicale de Carl Philipp Emanuel Bach, symphonie berlinoise, nous reprenons notre discussion avec Fabrice Ballanche, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon 2, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient et plus particulièrement spécialiste de la Syrie et du Proche-Orient. Le thème de l'émission ce soir, effectivement, c'est d'évoquer la Syrie d'Al-Sharaa. Et nous avons commencé par évoquer la situation de l'Université de Lyon 2, où enseigne en fait Fabrice Ballanche, et puis des conséquences de la guerre en Iran. Et Fabrice Ballanche, vous nous entendez cette fois-ci?
Oui, très bien. Oui.
Très bien, voilà, le problème technique est donc résolu. Et parmi les conséquences possibles de cette guerre contre l'Iran, vous disiez que Al-Sharaa pourrait être tenté d'envahir la partie chiite du Liban pour désarmer les troupes du Hezbollah. Mais est-ce réellement une réaliste comme possibilité? Parce que déjà, il a du mal à tenir la Syrie actuellement. Nous allons bien sûr en parler avec vous. Alors comment pourrait-il envisager d'intervenir chez son voisin?
Ah, bon, Il était prévu, après la guerre de l'automne 2024, que le Hezbollah donc, dépose ses armes, que l'armée libanaise, en tout cas, désarme le Hezbollah. Sans quoi les États-Unis, Israël allaient de nouveau intervenir. Donc, le délai, on l'avait laissé au Hezbollah et au Liban jusqu'au 31 décembre 2025 pour le faire. Le gouvernement libanais a dit, voilà, la première phase est réalisée, le Hezbollah a été désarmé au sud du Litanie, donc à proximité de la frontière israélo-libanaise. Mais en fait, le Hezbollah avait simplement bougé ses troupes vers le nord, et puis il n'avait surtout pas posé les armes. Et il a explicitement dit qu'il ne rendrait pas ses armes. L'armée libanaise, qui est composée aux trois quarts par des chiites, dont certains sont proches du Hezbollah, y compris parmi les officiers, n'est absolument pas capable de désarmer le Hezbollah. En plus, les soldats sont payés $200 par mois, ils ne vont pas se faire tuer pour une si petite somme. Donc, Israël a menacé évidemment d'intervenir, mais Israël n'a pas envie d'envoyer des troupes au sol. Là, ils sont rentrés au Liban, ils occupent uniquement les points hauts pour protéger la Galilée, éviter, comme à l'automne 2023, suite au tir du Hezbollah, que vous ayez 100 000 civils israéliens qui soient obligés d'aller se réfugier dans des hôtels à Tel Aviv ou plus au sud. Donc, c'est uniquement ça. Mais rentrer au Liban, pour Israël, ils ont quand même de mauvais souvenirs. Donc, qui sera capable à ce moment-là de désarmer le Hezbollah? Vous avez beau frapper avec votre aviation, s'ils ne veulent pas rendre leurs armes, ce n'est pas l'aviation qui va les obliger à le faire. Alors, il faudrait que le guide suprême iranien leur dise de poser les armes, mais on voit bien que c'est pas ce qui va se passer. L'Iran est parti dans une guerre pour durer, en espérant que les États-Unis se fatiguent du fait de la montée des prix des hydrocarbures, qu'il y ait des dégâts dans les pays du Golfe que eux-mêmes demandent aux États-Unis d'arrêter. Enfin, voilà, que les problèmes domestiques aux États-Unis poussent Trump à l'approche des mid-termes à trouver une issue négociée. Donc, l'Iran ne demandera pas au Hezbollah non plus de poser les armes. Donc, une solution, ça serait que Shara et ses djihadistes rentrent au Liban pour soutenir d'ailleurs des groupes islamistes sunnites qui sont assez nombreux dans la région de Tripoli, au nord-Liban, dans le Hakkar, qui ont envie d'en découdre avec le Hezbollah, qui ont envie de reprendre leur revanche par rapport au Hezbollah. Alors, ça aurait pour Israël et les États-Unis l'avantage d'avoir un proxy, un allié local qui désarme le Hezbollah. Pour Hachala, ça aurait aussi l'avantage de se trouver dans les bonnes grâces, justement, des États-Unis, d'Israël, de mettre la main sur le Liban. Vous ne voulez pas nous rendre le Golan? Bon, d'accord, bah, on prend le Liban. C'était ce que Kissinger avait proposé à Hafez al-Assad en 1974, hein, après la guerre du Kippour. Donc on est toujours dans ce schéma-là, que ce soit Hafez al-Assad ou que ce soit Ahmed al-Shala, la vision syrienne par rapport au Liban, c'est que c'est un territoire syrien qui a été détaché par la France et qu'il faut récupérer. Mmh. Hein, c'est toujours les mêmes logiques géopolitiques. Et puis, ben, voilà, Shala, il a quand même 100 000, 200 000... entre 100 000 et 200 000 combattants qu'il faut occuper. Il les a occupés avec les Alaouites en mars 2025, hein, qui se sont fait massacrer. Ensuite, ça a été les Kurdes. Après, en janvier, récemment, ça a été contre les Kurdes. S'il n'a pas envie que ces gens-là se retournent contre lui, eh bien, il faut leur trouver une occupation. Et là, c'est un scénario qui est assez, assez plausible, hein, une intervention syrienne au Liban contre le Hezbollah. Mmh.
Vous étiez en Syrie en septembre dernier, en septembre, oui. 2025. Comment s'est passé votre voyage? Avez-vous pu vous déplacer en sécurité? Qui avez-vous pu rencontrer et quelle a été votre impression?
Alors, j'étais déjà allé en Syrie donc en janvier 2025. Et donc, je tenais à revoir quelques mois plus tard la situation du pays. Bon, bah, je suis passé en tant que touriste, hein, tout simplement. Je n'ai pas dit que j'étais chercheur, je venais voir des amis en Syrie. Et puis, je me suis promené entre Damas, Alep, Latakié, Tartous et Homs. Je suis resté 2 semaines pour voir un petit peu la situation. Bon, il se trouve que je travaille sur la Syrie depuis 1990, donc j'ai beaucoup d'amis en Syrie qui, heureusement, sont restés. Ce qui me permet d'avoir des contacts sur place. Bon, je parle arabe aussi, ce qui simplifie les choses. J'ai pas rencontré beaucoup d'insécurité parce que je suis resté dans les grandes villes. Et entre les grandes villes, si vous restez sur les axes principaux, bon, ça va. Je suis allé un petit peu dans la campagne du côté de Latakié parce que j'avais des amis, donc. Je suis allé à Kessab, qui est une petite ville arménienne, un village arménien au nord de Latakié, à Selbacite, pour voir un petit peu l'état des campagnes, à l'arrière-pays de Tartous, où je connais du monde également. Mais il faut faire attention parce que vous avez des forces de Charia tous les 5-10 km dans la région alaouite, avec des types qui ne sont pas beaux à voir, qui portent l'écusson d'Al-Qaïda. Bon, donc il faut faire profil bas, hein, il faut éviter de se faire repérer. Bon, en tant qu'étranger, ils ont ordre de ne pas embêter les étrangers pour donner une bonne image de la Syrie. Alors c'est vrai, quand vous arrivez à la douane entre Beyrouth et Damas, vous êtes accueilli avec un grand sourire, il n'y a pas de souci pour avoir le visa, il n'y a plus de corruption, alors qu'à l'époque de Bachar, il fallait toujours glisser un billet dans le passeport pour que ça aille mieux. Là, ça se passe vraiment, vraiment très bien. Mais il ne faut pas être dupe, hein. Ils cherchent absolument à donner une bonne image du régime à l'extérieur. Quand vous discutez avec les Syriens que vous connaissez, que vous discutez en arabe, sans traducteur, sans tierce personne, je peux vous dire que ce qu'ils vous racontent, ça fait froid dans le dos. Hein. Notamment les Alaouites, ils m'ont raconté ce qui leur était arrivé. C'était épouvantable, épouvantable. S'il n'y a pas eu 1 400 morts, il y en a eu beaucoup plus, un minimum 5 000, 10 000 peut-être. Vous avez eu 100 000 Alaouites qui, depuis le mois de mars 2025, ont fui au Liban. Qui sont à Tripoli, qui sont à Beyrouth, hébergés dans des conditions extrêmement précaires, qui n'ont même pas le statut de réfugié parce que le gouvernement libanais ne veut pas de nouveaux réfugiés syriens, bien entendu. Donc il interdit aux agences de l'ONU de les enregistrer comme réfugiés. Et donc ce sont des associations locales qui s'en occupent. Les chrétiens sont assez protégés parce que là aussi, Ahmad Eshala ne veut pas donner une mauvaise image de lui, donc il fait attention à ce que les chrétiens ne soient pas attaqués. Bah, il y a quand même eu en juin 2025 donc l'attentat dans l'église Mar-Mirael à Damas, qui fait une vingtaine de morts. Vous avez des chrétiens qui sont assassinés dans le Wadi Nasara, c'est à l'ouest de Homs, c'est la vallée des chrétiens autour du couvent Saint-Georges. Par des sunnites qui étaient réfugiés au Liban, en Turquie, qui reviennent, qui veulent se venger, qui les accusent d'avoir été pro-régime et donc qui leur tirent dessus. Dans les villages à l'est de Homs, de Hama, les villages chrétiens isolés au milieu d'une campagne sunnite avec beaucoup de tribus, on cherche à les faire partir pour s'emparer de leurs terres, pour s'emparer de leur maison. Dans les quartiers chrétiens de Homs, c'est aussi pareil. Il y a aussi une stratégie de prédation là derrière. Les chrétiens sont peu nombreux, une communauté vieillissante, faible. Donc forcément, les nouveaux maîtres cherchent à s'emparer de leurs biens. Il reste plus que 200 000 chrétiens en Syrie. Ils étaient 1 200 000 avant la guerre. Une population âgée, parce que les jeunes, les familles sont parties, et les anciens, ils restent jusqu'à ce que les prix de l'immobilier remontent un petit peu pour liquider le patrimoine familial et aller retrouver leurs enfants en Suède, aux États-Unis, en France, enfin là où ils sont partis. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas vivre dans un pays qui devient une république islamique. J'étais dans le bus entre Tartous et Homs, et pendant 2 heures, il y a un type qui a mis le Coran sur son téléphone portable pour nous obliger à tous écouter le Coran dans le bus. Ça se serait jamais fait dans la Syrie précédente. Quelqu'un serait venu lui dire d'arrêter sa musique. Et là, si vous faites ça, vous êtes un koufar, un athée, un mécréant, et ça peut mal se passer pour vous. Je dormais à Homs dans la maison des jésuites au centre-ville de Homs, au milieu du quartier chrétien. 5 heures du matin, vous êtes réveillé par l'appel à la prière, comme si vous aviez une mosquée à côté de chez vous. En fait, il n'y a pas de mosquée dans le quartier. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré un câble depuis la mosquée à l'extérieur du quartier. Ils ont mis un haut-parleur au milieu du quartier chrétien pour que tout le monde entende l'appel du muezzin. Donc, vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça. Quand vous faites du terrain, quand vous êtes dans la population, vous vous rendez compte qu'il y a une chape de plomb qui est en train de s'installer, une forte insécurité qui règne. Parce que si vous écoutez les discours d'Ashara, vous n'avez pas l'impression. Si vous écoutez les rapports des journalistes qui restent que Damas ou des diplomates, vous avez l'impression que la Syrie est sur le bon chemin. Mais ce n'est pas le cas du tout. On va vers une dictature islamique.
Ce n'est pas ce que vous avez constaté à travers les rencontres et puis ce que vous avez vu dans les différents quartiers que vous avez fréquentés. Les chrétiens, les alaouites ne peuvent pas se protéger. Ils n'ont pas de milices ou de forces armées locales qui puissent empêcher les exactions.
Non, ben non, malheureusement. Les chrétiens, si vous voulez, ils n'ont pas de milice, bien entendu, puis ils sont trop dispersés, trop faibles. Et vous avez 80% de la population qui est partie, surtout les jeunes
Oui.
hommes. Donc, ils n'ont pas la masse critique pour pouvoir se défendre. Les Alaouites, ils l'avaient, et puis ils sont plus concentrés. Mais au mois de mars, ils ont été massacrés. Il y a encore eu des manifestations pacifiques. C'était, je crois, au mois de fin décembre ou début janvier. Ils se sont fait tirer dessus. On en a à peine parlé. La région alaouite est quadrillée. Tous les jours, vous avez des alaouites qui sont assassinés, qui disparaissent. Des femmes qui sont enlevées, violées, mariées de force. Quand les gens de Daesh se sont emparés du Sinjar en Irak et ils ont fait prisonnières des milliers de femmes yézidis qu'ils ont vendues au marché aux esclaves comme esclaves sexuels, ça a fait tout de suite un scandale. Il y a eu toute une campagne là derrière. Mais vous avez des centaines de femmes alaouites qui subissent le même sort. Alors évidemment, c'est pas massif comme en une seule fois est publicisé comme c'était le cas pour les yézidis du Sinjar. Mais ça se produit tous les jours. C'est vraiment des femmes qui sont enlevées, qui disparaissent. Elles n'arrivent jamais à l'université. Donc les parents n'osent plus envoyer leurs filles à l'université, au lycée. Ils les accompagnent. Ils cherchent à les faire partir pour les mettre en sécurité. Non, vous avez vraiment une chape de plomb qui règne sur le pays. Une persécution des minorités, ce qui explique évidemment que les Druzes et les Kurdes ne veulent pas poser les armes et pour pouvoir conserver leur sécurité dans leur bastion, soit le Djebel Druze ou alors l'extrême nord-est où vous avez des poches kurdes.
Qui sont responsables de ces crimes, de ces enlèvements, de cette chape de plomb, de ces massacres? Est-ce que ce sont les troupes gouvernementales ou au contraire, ce sont des milices d'islamistes incontrôlées? Y a-t-il un double langage, notamment du gouvernement d'El-Shaarah, sur ce sujet?
Oui, je dirais, c'est à l'extérieur, c'est Ashara, à l'intérieur, ça reste Al-Jolani, c'est-à-dire le chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda.
Oui.
Ses troupes, son armée, c'est quoi? C'est une coalition de milices. C'est une coalition de milices, des gens qui veulent prendre leur revanche. Les uns, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, assez disciplinés, hein, qui est le cœur de ces nouvelles forces. Mais tous ceux qui se sont regroupés autour de lui, la discipline, elle est difficile. Mais le massacre des Alaouites, par exemple, il a été organisé depuis Damas par Ashara. En discutant avec les gens, j'en ai vraiment eu la preuve et acquis la conviction. Alors, effectivement, il ne peut pas être partout et empêcher. Par exemple, vis-à-vis des chrétiens, il aimerait bien que ses troupes n'embêtent pas trop les chrétiens, parce qu'il sait qu'à l'extérieur, Vu que les communautés chrétiennes ont des réseaux en Occident, ça se sait ce qui se passe. Mais ils n'arrivent pas à les empêcher de le faire. Par vengeance, par intégrisme, par prédation, tous ces groupes veulent profiter du pouvoir.
Je vous propose de revenir au début, si vous voulez bien, Fabrice Ballange, comprendre les raisons de la chute aussi rapide, si surprenante. Ça a surpris tout le monde. La chute d'Assad personne ne l'a vu venir quand on discutait il y a 2 ans. Eh bien, nous avions l'impression que Assad avait gagné cette guerre, avec l'aide bien sûr de la Russie, de l'Iran, du Hezbollah, mais qu'il avait gagné cette guerre et que ses adversaires étaient réduits aux abois ou à l'occupation de la poche d'Idlib, d'où vient d'ailleurs Al-Sharaa. Comment comprendre, comment expliquer cette chute aussi rapide? L'armée syrienne ne s'est pas battue. Si on évoquait la poursuite du conflit de manière défavorable, et on se disait, bah, les Alaouites, ils auront leur réduit Alaouite. Et vous nous expliquez la situation des Alaouites actuellement, eh bien, ce réduit n'existe pas. Ils n'ont plus de force pour s'opposer, justement, aux troupes d'Al-Sharaa, aux troupes gouvernementales. Comment comprendre les raisons de l'effondrement d'Assad en quelques jours?
Alors bon, il y a deux échelles pour comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, Assad, le régime n'est pas tombé en 12 jours, il est tombé après 13 ans de guerre civile. Il faut quand même en être bien conscient. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 13 ans, le régime était complètement vermoulu, et la colonne vertébrale de l'armée syrienne, c'est-à-dire les Alaouites, ils ont été saignés à blanc par la guerre. Un homme sur quatre entre 20 et 45 ans est mort, un autre sur quatre était blessé, et encore un quart était parti pour éviter le service militaire. Donc les Alaouites, 10% de la population, ne pouvaient plus défendre ce régime. Et si bien comprendre que s'ils avaient défendu ce régime dès le départ, c'est pas par amour de Bachar el-Assad, mais parce qu'ils considéraient que c'était une lutte existentielle et qu'ensuite ils risquaient de subir la vengeance des islamistes sunnites qui allaient prendre le pouvoir. Et effectivement, c'est ce qui se produit. L'armée d'Assad était en fait tenue par le Hezbollah, par les passes d'Aran, par les miliciens chiites irakiens fournis par l'Iran. Tout ce petit monde, ça faisait 50, 60 000 combattants, plus évidemment l'aviation russe qui était décisive. Et grâce à ça, il tenait. Mais à l'intérieur, justement en discutant avec les gens en janvier, je me suis rendu compte que plus personne ne pouvait le supporter. Même les gens qui avaient supporté le régime par amour du régime ou, comme je vous le disais, par défaut, pour éviter de tomber sous la coupe des islamistes, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient tombés dans une spirale prédatrice absolument incroyable. Un bijoutier chrétien de Damas me disait que lui, il avait toujours été pour le régime par crainte des islamistes, et il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait refusé de verser 50 000 dollars à la première dame, à la femme de Bachar el-Assad, qui mettait le pays en coupe complète. Hein, dès que vous faisiez un peu d'argent, on vous spoliait. Donc il avait perdu vraiment tous ses soutiens. Il restait coincé dans son palais. Il ne paraissait même plus à la télévision, il se moquait des soldats, il se moquait des blessés. Par exemple, un soldat qui était blessé, il n'avait droit à rien, c'était sa famille qui devait s'occuper de lui. Or, les salaires étaient tombés à 15-20 dollars par mois, enfin, il y avait une misère effroyable qui faisait qu'il avait perdu tous ses soutiens. Et les Syriens qui sont restés, dans les Alaouites, me disaient, mais c'est incroyable. On est censé avoir gagné la guerre et on vit comme des clochards, alors que ceux qui ont perdu et qui sont réfugiés à l'étranger, notamment en Europe, finalement, ils gagnent bien leur vie, ils sont heureux, ils envoient beaucoup d'argent à leurs familles qui sont restées en Syrie, alors que nous, on vit dans la misère parce que le régime ne nous donne rien.
Donc ça, c'est déjà à l'intérieur, il était vraiment vermoulu. Ensuite, il y a eu le 7 octobre. 7 octobre 2023, c'est vraiment la clé du changement. Jusque-là, Israël se disait, bon, Bachar el-Assad, c'est le diable qu'on connaît, il vaut mieux le conserver plutôt que de se risquer vers l'inconnu, un sunnite qui unifierait la Syrie, puisque la Syrie est quand même deux tiers sunnite, arabe sunnite, et qui pourrait revendiquer le Golan, qui pourrait nous poser des soucis. Seulement, le problème, c'est que la Syrie est devenue, sous Bachar el-Assad, un protectorat iranien. Avec les Iraniens qui pouvaient ainsi, par la voie terrestre, relier Téhéran à Beyrouth et donc au Hezbollah sans difficulté, et qui ont transmis ainsi au Hezbollah des milliers de missiles pour menacer Israël, puisque le Hezbollah est considéré par l'Iran comme son arme de dissuasion vis-à-vis d'Israël. En fournissant des missiles au Hezbollah, ils peuvent frapper Israël dès que l'Iran le demande, notamment si l'Iran était frappé par Israël ou par les États-Unis, ce qui se produit en ce moment. Et donc, les Israéliens se sont dit, mais la priorité, c'est quand même l'Iran, qui a soutenu le Hamas, qui va utiliser le Hezbollah contre nous. Donc, ce régime, qui est incapable de résister à l'Iran, il faut le faire tomber. C'est le maillon faible du croissant chiite, c'est le maillon faible de l'axe iranien qui va de Téhéran à Beyrouth. Et donc, ils ont commencé à bombarder massivement les infrastructures pro-iraniennes en Syrie. Là où se trouvaient les gardiens de la révolution, là où se trouvaient les milices chiites, le Hezbollah. Ils ont même bombardé le 1er avril 2024 le consulat iranien à Damas, où se trouvait d'ailleurs une réunion de l'état-major de la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est la branche extérieure des gardiens de la Révolution. Les milices chiites irakiennes ont commencé à retourner en Irak, les passes d'Aran également, à se faire tout petit. Et puis, avec l'intervention israélienne au Liban à partir de septembre 2024, le Hezbollah a reflué vers le Liban pour bloquer l'offensive éventuelle d'Israël. Et donc là, Assad s'est retrouvé nu. Complètement nu. Et moi, à l'époque, en septembre 2024, j'avais fait d'ailleurs un papier dans l'Express pour expliquer que la prochaine cible, c'était le régime de Bachar el-Assad. Parce que ça me paraissait évident que là, les Israéliens allaient casser l'axe iranien. Et donc, Israël a rencontré les intérêts stratégiques de la Turquie pour pousser Hayat Tahrir al-Sham à bousculer Bachar el-Assad, et ça a été au-delà de leurs espérances, puisque effectivement ils n'ont pratiquement pas rencontré de résistance pendant ces 12 jours. Une fois que le front d'Alep a craqué, ça a été la déferlante. Des officiers syriens me disaient qu'ils étaient paniqués parce que l'état-major ne répondait plus, ils n'avaient pas d'ordre. Faut dire que les gens de l'état-major devaient savoir que c'était la fin, et ils s'étaient déjà enfuis au Liban ou à Dubaï pour les plus riches, sachant que c'était sans espoir. Et la Russie n'a pas soutenu Bachar el-Assad, ils n'ont pas du tout utilisé leur aviation, quelques frappes symboliques. Parce que, bon, un, ils sont tenus en Ukraine, et deux, Poutine ne pouvait plus supporter Bachar el-Assad, qui lui mentait en permanence, qui avait refusé tout accord avec la Turquie. Hein. La clé de la victoire du régime syrien, c'était la neutralisation de la Turquie. La Turquie demandait une zone de protection où elle pouvait déployer ses troupes dans le nord de la Syrie. Assad n'a jamais voulu négocier avec elle. Donc, à partir de là, il a épuisé la patience d'Erdogan, il a épuisé la patience de Poutine, et Poutine l'a laissé tomber. D'ailleurs, Poutine n'avait pas envie de l'accueillir à Moscou. Il l'aurait bien vu finir un crochet de boucher comme Mussolini en 45. Mais bon, son ministre des Affaires étrangères lui a dit qu'il fallait mettre les sentiments de côté et lui offrir tout de même l'asile, parce que les dictateurs pro-russes qu'il y a en Afrique, au Mali ou au Niger, ils comptent quand même sur une petite datcha à Moscou en cas de perte de pouvoir pour rester fidèle à Moscou. Donc voilà en fait ce qui s'est produit.
Alors, Fabrice Balanche, le comprenons mieux avec vos explications. En effet, les raisons de l'effondrement si rapide du régime syrien d'Assad. Mais la question corollaire, enfin, elle est double. D'une part, c'est qui a lancé Ahmed al-Shara, qui l'a financé, qui l'a conseillé sur la route et la prise de Damas. Et puis la deuxième question, naturellement, c'est un peu un obscur vainqueur, Ahmed al-Shara. On ne le connaissait pas, en tout cas sur la scène internationale, avant cette victoire éclair. Quelle est son histoire? Quand on regarde un peu, on voit qu'il a été emprisonné par les Américains, d'ailleurs. Il faisait partie des terroristes islamistes emprisonnés par les Américains pendant une certaine période. Qui est-il réellement? Et comment s'est-il comporté dans la poche diluée qu'il dirigeait? Et puis, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est toujours un djihadiste? Est-ce que c'est toujours un islamiste? Un peu double question, quoi. Qui est derrière Al-Shara et qui est Al-Shara maintenant?
Oui. Alors, qui est derrière Ahmed al-Shara? Bah, la Turquie, ça c'est très clair. La Turquie qui l'a protégé dans la poche d'Idlep. En 2019, à l'automne 2019, il y a une offensive de l'armée syrienne de Bachar el-Assad, appuyée par les Russes, les Iraniens, pour en finir avec la poche d'Idlep. L'offensive est, comment dire, donne de bons résultats. Et à un moment donné, les Turcs commencent à bombarder l'armée syrienne et à déployer 10 000 hommes dans la poche d'Idlep pour empêcher justement Assad et ses alliés d'en finir avec Ahmed al-Shara. Bon, ça a donné lieu à une explication assez musclée entre les Turcs et puis la Russie. Les Turcs refusaient qu'on élimine Ahmed al-Shara tant qu'eux n'auraient pas pu éliminer les Kurdes qui étaient appuyés par les Américains. Les Américains devaient se retirer de Syrie en octobre 2019. Finalement, ils l'ont fait à moitié, ce qui a bloqué l'élimination du réduit kurde par la Turquie. Et puis après, bah, y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine. Donc la poche d'Idlep est restée ainsi, protégée par la Turquie, financée par l'aide internationale. Parce que c'est les Nations Unies, les ONG qui ont gavé cette région d'aide humanitaire, prétextant qu'il y avait 4 millions d'habitants alors qu'il y en avait juste 2 millions, ce qui permettait de doubler évidemment l'aide humanitaire et ainsi de permettre à Ahmed al-Shara, qui contrôlait toute la distribution de l'aide humanitaire avec son gouvernement du salut, d'en revendre énormément sur le marché noir. Et de gagner des fortunes. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde me dit, à Alep, à Latakié, à Damas, les commerçants d'Idlep ont les poches pleines de dollars et viennent acheter ou louer des magasins pour faire fructifier leurs affaires. Et tout cet argent, en fait, ils l'ont acquis pendant la guerre grâce au détournement de l'aide humanitaire. Il faut dire que le Qatar aussi leur a donné beaucoup d'argent, puisque le Qatar est allié de la Turquie et a toujours été un soutien d'Ahmed al-Shara. Et c'est toujours lui d'ailleurs qui est à la pointe du soutien pour la reconstruction syrienne. C'est eux qui payent les fonctionnaires, par exemple, syriens.
C'est le Qatar.
Ouais. Il a été aussi aidé, Ahmed al-Shara, par une ONG britannique qui s'appelle MedInter. Qui est dirigé par un ancien chef de cabinet de Tony Blair et dont la spécialité est justement les crises, la médiation en situation de crise, travaillant en Colombie avec les FARC, etc. Bon. Mais là derrière, il y a évidemment les services britanniques, il y a évidemment la CIA qui se sont dit ben, finalement, Ahmed al-Shara, il peut nous être utile. Souvenez-vous, en octobre 2019, Abu Bakr al-Baghdadi, le calife, hein, le chef de l'État islamique, il a été tué par un commando américain dans la poche d'Idlep, où il était réfugié depuis la chute de Raqqa. Donc pendant 2 ans, il s'était planqué dans la poche d'Idlep. La poche d'Idlep était très bien quadrillée par Ahmed al-Shara, il savait parfaitement où se trouvait Baghdadi, et c'est lui qui a sûrement donné sur un plateau l'adresse de Baghdadi aux États-Unis, enfin la Turquie qui l'a donné aux États-Unis, pour se faire bien voir par l'oncle Sam. Donc, il s'est montré tout à fait respectable et utile aux Occidentaux et à la Turquie pour prendre le pouvoir en Syrie. Alors, qui est-il ? Bon, comme vous l'avez dit, hein, ancien djihadiste, en 2004, il est un jeune étudiant islamiste en littérature arabe. Il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie d'Amasène. Il est né en Arabie Saoudite parce que son père travaillait dans une compagnie pétrolière. Et puis, donc, il est parti donc, faire le coup de feu en Irak en 2004, où il s'est engagé dans l'État islamique en Irak, dirigé par, à l'époque, Azarqawi, qui est mort en 2007. À l'époque, il s'est retrouvé en prison, la fameuse prison d'Abu Ghraib, où il était très apprécié par ses geôliers, puisqu'il donnait des cours d'arabe aux détenus. Donc, il a été libéré pour bonne conduite. Aussitôt, il rejoint al-Baghdadi du côté de Mossoul, où on lui confie la tâche de former les futurs kamikazes, hein, les types qui allaient se faire exploser sur les barrages. Bon, lui, évidemment, il n'a jamais mis une ceinture de dynamite autour de sa taille. Hein, il a convaincu les autres de le faire. Donc, ce qui vous montre qu'il a un certain charisme, un pouvoir de persuasion. Hein, et puis, ensuite, en 2011, juillet 2011, il passe en Syrie avec un petit groupe de Syriens, d'Irakiens, où ils fondent le groupe Al-Nusra, qui est une émanation d'Al-Qaïda, de l'État islamique en Irak, dirigé donc par Abu Bakr al-Baghdadi. Enfin, à l'époque, ils font partie d'Al-Qaïda, hein, c'est une branche d'Al-Qaïda. Et le Front al-Nusra va participer à toutes les coalitions, ça marche assez bien. Mais à un moment donné, son mentor, Baghdadi, va vouloir prendre le monopole du djihad en Syrie et en Irak. Et donc, à partir de là, il va avoir une querelle d'ego entre les deux et ça va être la rupture. D'ailleurs, ça va être la rupture aussi de Baghdadi vis-à-vis d'Al-Qaïda, qui refuse de se soumettre à la fatwa d'Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui dit officiellement que c'est Ash-Shara, enfin à l'époque Al-Jolani, qui a le monopole du djihad en Syrie et que Baghdadi doit rester en Irak. Donc voilà un peu son pédigré. Donc si vous voulez, c'est un peu difficile de penser qu'il s'est déradicalisé. C'est un type qui est très intelligent, qui est pragmatique, qui a déjà travaillé avec les Occidentaux, qui a beaucoup appris des erreurs de son mentor al-Baghdadi, puisqu'il est mort, et que l'État islamique s'est écroulé à Raqqa et à Mossoul. Donc lui, par exemple, il ne fait pas d'exécution en public. Il exécute dans les cachots, ou quand il assassine, c'est sans revendication. Il interdit à ses hommes de prendre des vidéos. On leur confisque les téléphones. Ah bon, après, la discipline s'applique moyennement. C'est pour ça qu'on a quand même des vidéos des massacres des Alaouites ou des Druzes qui surgissent. Mais il a compris que si on voulait avancer, il fallait avancer masqué. Donc, c'est quelqu'un qui utilise parfaitement la fameuse taqiya, la dissimulation, pour arriver à ses fins.
Donc, pour vous, Fabrice Balanche, Al-Shara est toujours un islamiste.
Ah bah, un islamiste de sûr.
C'est clair.
Ensuite, non, parce qu'on... oui. Est-ce qu'il a toujours la foi djihadiste, l'envie d'en découdre avec l'Occident ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, son objectif est d'instaurer une république islamique sunnite, évidemment, en Syrie.
Et quelle est sa base sociale sur quoi s'appuie-t-il pour diriger ou pour gouverner ?
Alors, sa base sociale, c'est évidemment la population arabe sunnite syrienne, qui représente à peu près les deux tiers de la population syrienne, voire un peu plus, même aujourd'hui, 70% sans doute. Pas tous les sunnites. Hein, c'est-à-dire que c'est plutôt les populations conservatrices, venues des campagnes, venues des petites villes. La bonne société d'Amasène, Alépine, sunnite, séculière, elle, évidemment, elle n'en veut pas. Elle préférerait avoir à la tête de la Syrie un commerçant venu de cette société, parce qu'elle juge Ash-Shara mauvais gestionnaire. Elle n'a pas beaucoup confiance dans sa capacité à reconstruire le pays. En plus, il est déjà extrêmement corrompu. Il a donné des prébendes à toute sa famille, à tous ses amis. Donc ça, les sunnites de Damas, ils ont du mal à l'accepter. Mais c'est lui qui a la force, hein. Il s'appuie sur donc une force militaire comprise entre 100 000 et 200 000 combattants. Parmi eux, vous avez sa garde rapprochée qui est constituée notamment par des Tchétchènes, par des Ouïghours, par des Ouzbeks, des djihadistes internationalistes.
Ceux qui étaient dans la poche d'Idlib avec lui, c'est
qui étaient dans la
ce
poche
sont les
d'Idlib
mêmes.
avec lui,
D'accord.
et qu'il a même intégré dans son état-major, et qui constitue vraiment sa garde rapprochée, parce qu'en fait, il se méfie des Syriens. Et donc, il a une garde étrangère autour de lui, qui est sans doute moins susceptible d'avoir envie de prendre le pouvoir, et donc de l'assassiner. Ça, c'est un classique dans la région, hein. Si vous prenez le roi de Jordanie, sa garde rapprochée, c'est les Tcherkesses,
Oui.
par exemple. C'est le concept des Mamelouks, si vous voulez, qui entouraient les émirs, les sultans, hein. Ces esclaves soldats, bien souvent des jeunes enfants chrétiens qui avaient été kidnappés dans dans les Balkans, qui avaient été convertis à l'islam et qui servaient d'esclaves soldats, hein, les fameux Mamelouks.
Et sur le plan international, où penche Tchara? Toujours auprès de la Turquie? Parce que ce sont
Oui,
eux
c'est
qui,
la Syrie
plus
est
que
passée d'un
l'Arabie Saoudite.
protectorat iranien à un protectorat turc aujourd'hui, oui.
Oui. Et donc lui, c'est son gouvernement, il l'appuie sur sur les Turcs. C'est un
Il
allié
s'appuie sur
d'Erdogan,
la
plus que
Turquie.
l'Arabie Saoudite et
Oui.
le Qatar par rapport. Le Qatar est allié de la Turquie, vous nous aviez précisé aussi. Donc c'est cohérent. Comment a-t-il formé son gouvernement? Et puis je souhaitais aussi évoquer avec vous les élections, hein, qui ont eu
Alors, il
lieu.
a formé un gouvernement. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Syrie, ce n'est pas le gouvernement qui dirige. C'est Ahmad Eshala. Après, il va s'appuyer évidemment sur le ministre de l'Intérieur, sur le ministre de la Défense, qui sont des gens venus d'Idlib. Mais le ministre des Transports, le ministre de l'Économie, tout ça, ils n'ont absolument aucun pouvoir. Et ils ont d'autant moins de pouvoir qu'ils sont tous bordés d'un cheikh. En fait, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les cheikhs.
Alors les
Alors, les
chers, qu'est-ce que
cheikhs,
c'est
ce
que les
sont
chers, oui?
des religieux. Des religieux combattants, venus d'Idlib aussi, sur lesquels ils s'appuient. Dans tous les quartiers, dans toutes les administrations, dans tous les ministères, vous avez un cheikh qui vérifie, qui contrôle. Et tout. Par exemple, le ministre sort un décret, il faut que ça passe par le cheikh qui va contresigner derrière. Et sinon, c'est pas valable. Donc, il y a tout un réseau de cheikhs qui répondent directement à Challah. Et qui tient le pays. Alors justement, l'Union européenne lui avait demandé de former un gouvernement inclusif. On lui demande pas la démocratie, on lui demande pas la lune, on lui demande juste de faire une petite place aux minorités dans son gouvernement. Donc il a pris une chrétienne, un alaouite, un druze, un kurde de Damas. Mais ces gens-là n'ont absolument aucun pouvoir. Sont juste des potiches, quoi, pour montrer aux Européens, aux Occidentaux, qu'il y a un gouvernement inclusif.
C'est de l'affichage.
Alors,
Oui.
il y a eu des élections législatives au mois de ouais, début octobre 2025. En fait, il a constitué un corps électoral de 6 000 personnes. Qu'il a choisi lui-même, enfin qu'il a fait choisir par ses représentants dans dans les provinces, par les chaires, et parmi ces 6 000 personnes, ils ont dû choisir un parlement, enfin 120 parmi eux, pour participer au parlement. Puis Charla se réservait le droit d'en nommer un tiers, et à ma connaissance, il ne l'a toujours pas fait. Mais de toute façon, ce parlement, on en a parlé un petit peu quand il y a eu ces fameuses élections. Alors, les adorateurs de Challah et tous ces relais dans la communication occidentale, parce qu'avec l'argent du Qatar, il y a beaucoup de journalistes et de chercheurs qui ont été achetés, hein, aux États-Unis comme en Europe. Et donc, ils ont montré que la Syrie était sur la voie de la démocratie, etc.
Avec 6 000 électeurs choisis par le président.
Ouais, choisi par le président. Le président a choisi des électeurs et ensuite, il a choisi les députés, que devaient élire les électeurs. Voilà.
Oui, en effet, on est pas tout à fait sur la voie d'une réelle démocratie.
Non, non, non. Et d'ailleurs, ce qui est
Oui.
intéressant, c'est que j'ai regardé un petit peu le site des affaires étrangères à l'époque français pour voir ce qu'ils en pensaient. Et il n'y avait aucun commentaire. Il n'y avait aucun commentaire. Alors, quand vous n'avez pas de commentaire, ça veut dire qu'on ne. Alors, ils n'ont pas dénoncé cette farce, mais ils n'ont pas fait de commentaires, ce qui veut dire qu'ils n'approuvent pas.
Ce qui n'est pas très bon signe, oui.
Ouais.
Mais ça, les Américains acceptent cette situation ?
Oui, parce que...
Parce que pardonnez-moi, priorité... Fabrice Ballon, je vous dis clairement, et quand vous nous racontez le parcours d'Al-Shara, les massacres des Alaouites, qu'on pourrait rajouter d'ailleurs, ça, c'est une question d'un auditeur, c'est la situation des Druzes, le massacre des Druzes, comment les Américains peuvent-ils accepter une telle situation ? C'est une farce, ce gouvernement.
Oui, mais bon, déjà à Washington, si vous voulez... la Syrie ne constitue pas la priorité.
Oui.
Donc, la priorité, c'est la Chine. Toutes les forces américaines doivent être mobilisées pour empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale. À partir de là, quand vous avez un pays comme l'Iran qui a un partenariat stratégique avec la Chine, qui exporte ses hydrocarbures vers la Chine, à prix cassé puisqu'ils sont sous sanctions, faire la guerre contre lui, certes, il y a le programme nucléaire et balistique qu'il faut éliminer, mais il y a aussi un allié de la Chine qu'il faut ramener dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le chemin américain. Et la stratégie donc à l'égard de la Syrie est liée à cette stratégie globale. Donc, le massacre des Alaouites, des Druzes et compagnie, ça passe en pertes et profits. Bon, on se dit qu'après 13 ans de guerre civile, de toute façon, on ne peut pas stabiliser le pays sans qu'il y ait quelques dégâts. Il faut espérer que ça ne soit pas un massacre généralisé. Et puis, ça pourrait être pire. Enfin, en tout cas, y a quand même eu un épisode qui a fait tâche. C'est justement quand il y a eu le massacre des Druzes. Les forces d'Ashara sont arrivées à Soueda. Et ils ont massacré le pasteur protestant et toute sa famille. Or, ce pasteur, évidemment, était lié au MAGA, à la base sociale de Trump, hein, c'est les chrétiens évangéliques américains. Donc là, il y a quand même eu des remontées à la Maison-Blanche, ils ont pas trop apprécié. Et il y a surtout un Américain qui a été tué. Et là, aux États-Unis, ça passe pas. Bon, c'est un Américain d'origine syrienne, bien entendu, mais pour les Américains, ça fait pas de différence. Donc là, il y a eu, on a indiqué à Chara qu'il fallait qu'il se calme à ce niveau-là. Nous, la France, on a eu un franco-syrien qui a été tué. À ma connaissance, il n'y a pas eu de condamnation, de communiqué, quoi que ce soit.
Ouais, très rapidement, parce que le temps avance, Fabrice Ballanche, nous avons beaucoup de questions aussi à voir avec vous sur une situation complexe, hein, qui est celle de la Syrie maintenant. Quel est l'objectif des Américains ? Quand on regarde l'actualité, ils se retirent d'un certain nombre de bases, mais on dit qu'ils pourraient être intéressés par une base militaire près de Damas. Donc, que veulent les Américains ? Que veulent les Russes, qui jusqu'ici ont conservé eux aussi leur base militaire ? Que veulent les Turcs ? Et puis aussi, que veut Israël ?
Alors, Israël veut conserver le Golan, et Israël ne veut pas que la Syrie dispose d'une armée menaçante, donc notamment d'une force aérienne. Ils veulent que le ciel syrien soit un ciel israélien, tout comme le ciel libanais est un ciel israélien. Les Israéliens, dans la mesure du possible, auraient préféré une Syrie fédérale dans laquelle les Druzes, les Alaouites, les Kurdes disposent de territoires autonomes, ce qui aurait permis d'affaiblir Damas. Et je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise idée d'avoir une Syrie fédérale parce que ça aurait évité le massacre des minorités et leur expulsion à terme. Et en plus, un pays fédéral... ça permet de limiter le pouvoir central, donc de limiter l'autoritarisme. On aurait eu sans doute, on se dirigerait sans doute pas vers une république islamique si on avait un pays fédéral. La Turquie, elle veut un pays centralisé sur son modèle, sur le modèle dont rêve Erdogan pour la Turquie, donc un pays extrêmement centralisé et islamiste. Et puis elle veut contrôler ce pays. Tout comme elle contrôle déjà le Nord-Irak, hein, c'est dans la stratégie néo-ottomane qu'elle imagine la Syrie. Et ça, je le dis pour les affaires étrangères françaises, il ne faut pas croire qu'on aura une place en Syrie. Parce que pour la Turquie, la victoire d'Ashara et le retour de la Turquie en Syrie, c'est... c'est sa vengeance par rapport à Sykes-Picot, hein, c'est-à-dire les accords franco-anglais de 1915 où on s'était partagé les provinces arabes de l'Empire ottoman. Donc, pas question que la France revienne dans le jeu pour la Turquie. Les États-Unis, eux, bon, ben, ils veulent de la stabilité en Syrie. Qu'importe que ça soit un dictateur, ils s'en fichent. Leur préoccupation, c'est qu'ils restent du côté occidental, qu'ils soient anti-iraniens. Bon, ça, c'est pas un souci, puisque évidemment, il est sunnite et il s'est battu contre les Iraniens pendant la guerre civile. Donc, il y a peu de chances qu'il bascule. Et puis, comme je vous le disais en début d'émission, si en plus il peut donner un coup de main pour désarmer le Hezbollah, eh bien, c'est tout bénéfice. Alors, les États-Unis, quand même, ont un petit peu déchanté ces temps derniers, parce que ils avaient donné à Chara le feu vert pour chasser les Kurdes du nord-est syrien, mais il fallait quand même qu'ils conservent les djihadistes de Daesh qui sont en prison à Raqqa, à Shehdadeh, à Hasakeh, etc. Et Chara, qui venait de rejoindre la coalition anti-État islamique, avait dit pas de souci, quand on reprendra Raqqa, bien entendu, on gardera les prisons. Et puis, quand ils sont arrivés à Raqqa, eh bien, les combattants de Chara, ils ont fraternisé avec les détenus, puisque évidemment, c'était peut-être pas des frères d'armes, mais au moins des cousins d'armes. Donc, ils les ont libérés, ils ont fraternisé avec eux. Quand ils sont arrivés au camp de Tell Hall, là où vous aviez 30 000 femmes et enfants, c'est-à-dire les familles des djihadistes, dont 7-8 000 étrangers et 300 Français, bah, tout simplement, ils les ont libérés. Et là, le camp de Tell Hall, il est vide. Et donc, vous avez des centaines d'anciens combattants djihadistes qui sont dans la nature, des milliers même, et puis les femmes et les enfants. Alors, les Américains en catastrophe ont organisé un transfert des 7000 combattants djihadistes qui se trouvaient encore dans les prisons de Hasakeh et de Qamishli, qui étaient encore sous contrôle kurde, avant que les forces de Chara les libèrent. Donc, bon, ils ont quand même compris que ce n'était pas un type en qui on pouvait faire confiance pour lutter contre l'État islamique. Bon, la priorité des États-Unis, c'est la Chine. En deux, c'est l'Iran. Et s'il peut maintenir la stabilité en Syrie, ensuite on verra.
Fabrice.
Et puis s'il ne joue pas le jeu, bah, on pourra toujours l'éliminer. Hein. Ils ont bien réussi à éliminer Ali Khamenei. Chara, il n'est pas difficile à éliminer s'il ne rentre pas dans le rang.
Fabrice
Quant à la Russie,
ce
qui l'intéresse,
oui,
c'est de garder ses bases. Et c'est ce qu'elle a obtenu de Chara.
On est surpris par, là aussi, le retrait des Kurdes, l'effondrement des Kurdes.
Oui, alors, les Kurdes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord-est syrien, la région qui contrôlait un tiers du territoire syrien, de Raqqa, Deir ez-Zor, Manbij, Qamishli, Hasakeh, jusqu'à la Turquie, les Kurdes ne représentaient qu'un tiers de la population. Ils avaient conquis ces territoires grâce à l'appui américain, dans le cadre de la lutte contre Daesh. Mais jamais les Arabes qui habitaient cette région, et y compris les Arabes qui étaient dans les forces démocratiques syriennes, où ils représentaient les trois quarts des effectifs, jamais ils n'ont accepté les Kurdes comme égaux, et jamais ils n'ont accepté la domination kurde. Les Arabes de la région ont un racisme absolument incroyable à l'égard des Kurdes, hein, justement pour avoir fait beaucoup de missions dans cette région et discuté avec les gens, ça faisait froid dans le dos. Je me souviens encore... En 2022, une mission que j'avais faite du côté de Deir ez-Zor, où les gens me disaient que c'était mieux à l'époque de Daesh, les Kurdes, il faut qu'on s'en débarrasse. Enfin, ça n'annonçait pas des lendemains qui chantent. Donc, les forces démocratiques syriennes, la fédération arabo-kurde, tout ça, c'était un mirage. Ça ne pouvait pas marcher. Jamais les Arabes n'auraient accepté ça. Donc, quand Chara a pris le pouvoir en décembre 2024, eh bien, les populations arabes de cette région ont voulu rejoindre Damas. Les Kurdes, les forces kurdes ont réussi à maîtriser la situation, à temporiser, mais ça n'a pas suffi. Dès que les Américains ont commencé à se retirer de la région et donner le feu vert à Chara, il leur a été absolument impossible de rester. Alors là, ils conservent deux petites poches qui sont purement kurdes, autour de Kobané et puis de Qamishli, avec une ouverture vers l'Irak, mais c'est très très fragile. Il n'y a pas d'intégration des forces kurdes dans l'armée syrienne. J'étais encore au téléphone avec un responsable kurde il y a 2 jours qui me disait qu'il n'y a aucune intégration, ils ont tous l'arme au pied et ils attendent la prochaine offensive.
Alors justement, c'est ma question suivante, il reste 5 minutes. Fabrice Ballan, j'en profite pour rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de vous recevoir pour évoquer la Syrie d'Al-Sharaa. Vous êtes maître de conférence en géographie politique à l'université bien connue de Lyon 2, et vous êtes l'auteur de ce livre hein, qui a été primé et qui est préfacé par Gilles Kepel, Les leçons de la crise syrienne, que vous avez publié aux éditions Odile Jacob. Justement, Fabrice Balanche, première question, qu'est-ce que contrôle Al-Sharaa justement en Syrie, s'il contrôle tout le territoire syrien, à part justement une part du territoire kurde, en fait, que contrôle son armée? Contrôle-t-elle les villes? Contrôle-t-elle aussi les campagnes? Quelles sont les autres forces en présence? Peut-on imaginer que l'armée syrienne d'Al-Sharaa va contrôler toute la Syrie et chasser ces autres forces qui sont présentes? Ça, c'est ma première question. Et puis, j'aimerais aussi que nous terminions par la vie quotidienne en Syrie. Concrètement, comment les habitants vivent-ils sur le plan économique?
Oui, alors Sharaa, il contrôle, on va dire, 90% du territoire.
Oui.
Ce que contrôlent les Druzes et les Kurdes, c'est résiduel. Il y a dans la steppe pas mal d'endroits qui lui échappent, parce que là, c'est Daesh. Hein. Bon, c'est des zones qui sont peu peuplées.
Daesh est toujours très présent, très fort.
Ah oui, et puis qui se renforce parce que... il y a pas mal d'osmose entre les forces de Sharaa et de Daesh. Et Daesh capitalise le mécontentement à l'égard de Sharaa. Parce que Sharaa, en fait, il a fait beaucoup de promesses à la population syrienne. En septembre, il annonçait qu'il y avait 10 milliards d'investissements du Golfe en Syrie. Et puis après, il a dit en octobre, c'était 25 milliards. Moi, je me suis dit, à Noël, il va nous annoncer 50 milliards, c'est pas possible. Et tout ça, c'est des promesses en l'air. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il y a 2 heures d'électricité par jour. Il y a la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. Les gens sont obligés d'acheter de l'eau à des camions-citernes. Ça leur coûte un tiers de leur revenu. Bon, alors certes, les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. On est passé de 20 dollars à 100 dollars par mois, quasiment, grâce à l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui payent pour l'instant. Mais il n'y a pas de reconstruction de l'industrie, il n'y a pas de reconstruction des maisons tout court, parce qu'il n'y a pas d'argent du tout. Les frontières sont ouvertes, donc vous avez des produits turcs, chinois qui rentrent par la Turquie. Donc toute l'industrie syrienne est complètement à plat, rien n'a redémarré. Les gens vivent grâce aux aides que les familles, les réfugiés qui sont à l'extérieur leur envoient. Et vous avez bien vu que vous n'avez pas de retour massif en Syrie. Alors, si, il y a des retours du Liban, mais évidemment, puisque c'est la guerre au Liban, donc les Syriens reviennent, en tout cas les familles reviennent. Mais de Turquie ou de Jordanie, il n'y a que les très pauvres ou ceux qui sont en délicatesse avec la justice qui sont retournés en Syrie. Mais les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer me disent « Non, on ne peut pas investir dans ce pays ». Il n'y a pas d'avenir, il est déjà extrêmement corrompu, on sait pas comment ça va tourner. Donc c'est assez désespérant. Hein. L'enthousiasme à l'égard de Sharaa s'est quand même aujourd'hui pas mal dissipé. Donc à partir de là, puisqu'il n'arrive pas à augmenter le niveau de vie des Syriens, parce qu'en plus, comme il a libéralisé l'économie, tout est extrêmement cher. Le prix du pain a quintuplé. Le prix de l'électricité était multiplié par 10. Enfin, c'est absolument... Donc, évidemment, ceux qui ont de l'argent, qui reçoivent de l'argent de l'étranger, ils s'en sortent, mais alors les autres, ils s'enfoncent dans une misère noire. Mmh. Et par conséquent, il craint des manifestations, de la contestation. Donc, il renforce évidemment la répression et la pression sur les gens.
Fabrice Ballanche, c'est un tableau assez sombre hein, que vous nous faites de la situation syrienne. Peut-on imaginer que l'avenir de la Syrie, c'est une dictature islamique avec la charia?
Oui, malheureusement, c'est vers ça qu'on se dirige.
Eh bien, Fabrice Ballanche, merci beaucoup d'être venu nous parler de la Syrie ce soir en direct. Je rappelle votre livre « Les leçons de la crise syrienne » préfacé par Gilles Kepel que vous avez publié à Odile, aux éditions Odile Jacob. Merci encore d'être venu ce soir en direct. Merci à Stéphane à la technique. Merci à Laurent qui a pris vos messages, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 8 mars 2026, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.